L'actualité des luttes. L'actualité des luttes. L'actualité des luttes.
Actu lutte.
L'actualité des luttes. L'actu à lutter débute.
Ouais, bam, boum. Ouais, bam, petit boum. 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 Ouais, bam, boum.
Bonjour, il est 10h. Nous sommes le collectif Poil à gratter. Vous êtes en direct du studio de Radio Campus 102.4. Studio aujourd'hui aux allures post-apocalyptiques, puisqu'il n'y a que deux néons qui fonctionnent sur 8, dont un qui clignote. C'est peut-être le petit bruit que vous entendez derrière moi. Mais ça ne va pas nous arrêter. Donc aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle émission d'ActuLutte, dont le thème ce mois-ci est l'habitat. La joyeuse équipe d'animateurs qui est autour de moi est composée ce matin de Anna, Chloé, Clémence, Manu
et Florent. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cette émission dédiée à l'habitat, vous entendrez d'abord un documentaire réalisé par Chloé et Anna sur le squat d'Enfer, qui se trouve rue d'Enfer Rochereau à Besançon et qui accueille des migrants et des SDF. Il y aura ensuite la chronique tant attendue de Clémence, cette chronique hors les murs, qui va nous parler aujourd'hui du privé et du public. Ensuite, il y aura le documentaire de Ben sur l'île de Hiddick en Bretagne et la problématique de l'habitat secondaire. Et on terminera avec le son de Chloé sur Les Grands Voisins, un lieu à Paris qui propose d'inventer une forme d'occupation d'un espace vide. Et l'émission sera agrémentée de sons faits maison, parce que c'est dans le thème.
On va commencer par le son qu'on a fait avec Chloé. On s'est rendu au squat d'Enfer Rochereau. Et là, on a rencontré Stanley, un Albanais demandeur d'asile et qui habite au squat. On a aussi discuté avec Audeline, qui fait partie du collectif. Elle est militante en fait de Sol Miré et elle soutient aussi ce squat. Bonne écoute.
Salut.
Salut.
In French.
Salut. Salut. Salut.
Ça va?
Milan, t'es pas venu?
Coucou.
Ça va et toi?
Oui, ça va.
Salut.
Can you tell us?
Peux-tu nous parler de la situation au début? Comment tu as connu cet endroit et quand est-ce que tu es arrivé ici?
Right. We were outside, unfortunately. And then, so, after...
Malheureusement, nous vivions dehors. Puis cet appartement a été ouvert. Nous sommes venus. Et ces personnes nous ont aidés.
Now we are about 10.
Maintenant, nous sommes 10 à vivre ici.
And how are you organized? What
comment
the organization
organisé
for
ici?
Living here?
So basically, what it is in the kitchen? Okay, we share the kitchen. And here
nous
in
partageons
room,
la cuisine, le salon.
Alcohol,
nous ne buvons pas. Nous
drugs,
ne prenons pas de drogue.
We smoke.
Nous fumons seulement dans le salon.
And, okay, we share
nous partageons une chambre pour trois personnes.
And, yeah. And that's all.
Nous so gardons cet endroit propre.
Everything like we cook,
nous
we
cuisinons,
and
nous
we
mangeons,
wash the plates
nous débarrassons.
Straight away. We don't leave them to get
nous
stopped.
Ne partons pas avant d'avoir fini.
Is the life between all of you?
Yeah.
It's easy or Sometimes
it's et la vie en commun, c'est facile ou parfois together. C'est difficile?
Well, when we are less people, better it is. But in these conditions, what can we do? We have got no choice. So
you have dans to accept nos conditions, it. Nous n'avons pas I le mean, choix.
We have to accept it until.
Nous devons so accepter.
The prefecture
jusqu'à ce que
government
le gouvernement ait trouvé une solution pour nous.
So we speak with the Hungarian guy, I speak Italian.
Avec certains, je parle en italien. Avec ceux qui viennent de Angola, je parle anglais.
Yeah. As long as we communicate.
En fait, nous arrivons à communiquer.
That's fine.
Cool.
Okay.
What's your
quelle est ta pièce préférée dans cet appartement?
Favorite place?
Ma pièce préférée.
I don't have any favorite places.
Je n'en ai pas. Je
I
peux être partout.
But most of
la
the time
plupart
in,
du temps,
in living
je
room.
Suis dans le salon.
Because
parce que
we
nous
smoke
pouvons
some cigarettes
fumer
in there
and des cigarettes, nous
yeah,
buvons
we can have
un café.
Coffee, just relaxing. Yeah. That's all.
Okay. Thank you.
No problem. You're welcome.
Raconter pour toi comment ça s'est passé du coup l'ouverture de ce squat, je sais pas à quel point tu y as pris part.
Alors moi tu as fait depuis début juillet, je dirais que régulièrement je vois des personnes dans la rue, surtout du coup des demandeurs d'asile, et jusque là on les aidait plus en les hébergeant un peu chez nous, en faisant des référés, des démarches de référés avec l'avocat quand c'était possible. Mais en fait, ça, c'est possible surtout quand il y a des enfants ou quand il y a des personnes malades. Mais sauf quand il y a des adultes qui n'ont aucun problème médical et qui se retrouvent dans la rue, bah là, il n'y a rien pour eux, quoi. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait autant de personnes qui étaient dans la galère et puis qu'eux, en fait, ils arrangeaient pour ouvrir des appartements tout seuls et qu'ils se retrouvaient des fois dans des situations bien compliquées parce que pas de soutien. Et du coup, bah, la police les embarque et c'est très compliqué, quoi. Du coup, on s'est dit que... Et puis, on a su qu'il y avait cet appartement-là qui était pas occupé depuis plus de 7 ans. Et on s'est dit, c'est pas possible, quoi. Donc c'est cette raison, après il n'y a pas que les migrants, hein, parce que c'est aussi une problématique globale, hein, le problème de logement, il y a aussi, il n'y a pas que des migrants d'ailleurs ici, il y a aussi des personnes sans domicile fixe qui sont passées, il y en a qui encore qui sont là, enfin voilà, c'est aussi vraiment pour montrer qu'à Besançon il y a plein de lieux inoccupés et qu'à côté il y a plein de personnes qui sont dehors et que c'est juste pas normal de laisser... laisser faire, quoi. Donc voilà, on espère que ça va donner aussi envie à d'autres de voir autour d'eux déjà ce qu'il y a de possible et de soutenir du coup quand il y a des projets qui se mettent en place, quoi.
Parce que comment vous avez repéré, comment vous faites pour repérer les apparts qui sont vides?
Après c'est des connaissances, quoi, des personnes qui nous disent là cet appartement c'est à côté de chez moi, j'ai jamais vu quelqu'un depuis des ans et des années. Après il y a clairement aussi de nombreux logements inoccupés municipaux, voilà, on en connaît, on sait que là on réfléchit à ça aussi pour la suite parce qu'on se dit que il y a une loi qui existe et qui permet de mettre en place quand il y a des besoins urgents, d'appliquer la loi de réquisition. Et donc, on aimerait vraiment, là, pour les prochaines actions, mettre en valeur aussi cette... Enfin, on le répète aussi pour ici, hein, mais c'est vrai qu'ici, c'est un propriétaire qui habite pas du tout ici et qui s'occupe pas du tout de l'immeuble, mais parce qu'il a tout l'immeuble, du coup, ils sont deux. Et du coup, c'est sûr que, voilà, on peut se dire, on touche plus... pour moi, c'est aussi bien de montrer que ça touche pas que les propriétaires privés, mais aussi tous les... Enfin, voilà, on remet la responsabilité là où elle doit être, quoi. Ils sont demandeurs d'asile, ils ont des droits d'hébergement. Alors tout un chacun peut les héberger, mais c'est surtout la préfecture et la mairie qui s'en occupent, quoi. enfin la préfecture a la responsabilité et la mairie peut, c'est pas une obligation, mais dans plein de municipalités ça se fait quoi. Donc c'est vrai que là on a eu des dernières actions qu'on a fait justement pour les familles qui étaient dans la rue, ça a été d'occuper des lieux municipaux et de pas bouger tant qu'il n'y aurait pas de solution d'hébergement pour eux. Et à chaque fois, ça marche pour les familles qui ont des enfants, mais par contre, les familles qui n'ont pas d'enfants, ben, ils se retrouvent toujours dans la rue et on leur dit qu'ils ne sont pas prioritaires, quoi. Donc...
Ouais, parce qu'il y a rien qu'oblige. La... Enfin, dans la loi, il n'y a rien qu'oblige. C'est par rapport aux enfants, en fait. On est obligé de s'occuper de mineurs alors qu'il y a un truc comme ça ou pas ?
Pas vraiment, en fait. C'est surtout que ça le fait ben, qu'au niveau de l'image de la ville, ça ne le fait pas de laisser des enfants dehors. Et donc, du coup. Dans ces cas-là, ça réagit quoi, et ça on fait plus, on arrive à faire plus pression. Mais par contre, des hommes seuls ou des adultes seuls de manière générale, là ça choque moins. Mais dans la réalité, non. De toute façon, ils sont dans cette là, c'est illégal de laisser ces personnes-là dehors parce qu'ils ont des droits d'hébergement, ils sont demandeurs d'asile. Sauf qu'on priorise les personnes qui viennent de pays en guerre. Et par contre, les personnes qui viennent de pays dits sûrs comme le Kosovo et l'Albanie, ils sont mis de côté, quoi. Il y a clairement une ségrégation entre ethnies en fonction de là où on vient et de pourquoi on fuit notre pays. Et clairement, enfin, Besançon, mais c'est pareil dans plein d'autres endroits en France, on accompagne moins ces personnes et on leur dit clairement qu'ils auront très peu de chances d'avoir leur statut ici. Donc, dès le départ, on leur dit repartez chez vous, quoi. Et on va pas vous aider, quoi. Mm.
Ciao.
Merci.
Bye bye.
Ciao.
Bye bye. Ciao.
Bonne soirée.
Alors, pour information, le propriétaire n'a pas loué cet appartement depuis 7 ans pour cause d'insalubrité et les habitants ont dû faire des travaux pour pouvoir y vivre. Malgré tout, le propriétaire demande l'expulsion et un loyer important pour leur occupation. Les habitants du squat sont donc menacés d'expulsion et le tribunal rendra son jugement le 11 avril. J'entre dans la rue Ronchaud ce mardi matin, il est 9h et l'air est humide. Je suis en vélo, un peu en retard, j'accélère mes coups de pédale. Et c'est là que je l'aperçois, sur un angle de mur beige. Deux pochoirs, noirs, l'un à côté de l'autre, un peu l'un en dessous de l'autre. Curieuse, excitée même par ce nouveau message, j'accélère de nouveau. Et là, je les déchiffre sans freiner. Le premier dit « change le monde ». Et l'autre, change-toi. Je pédale, me voici au bout de la rue, et... Et ne sais quoi penser. Change le monde, bien sûr, certainement, avec joie et rage même. Change-toi... Change-toi fait retomber le tout comme un triste soufflé au fromage. Un message tristement déjà entendu, trop entendu, partout. C'est vrai, si tu veux sauver la planète, coupe ton eau, éteins ta lumière, trie tes déchets, achète bio, chie bio, regarde la provenance des produits, sois éco-citoyen. Sois éco-citoyen, bordel. L'éco-citoyennisme est à la mode. Une belle vague, où voguent main dans la main toutes les multinationales, jusqu'à McDo et Coca. Une belle vague où les villes expulsent des squats pour faire des éco-quartiers. Une belle vague de fumée qui étouffe de ses belles et incontestables paroles des réalités purement économiques, dénuées d'humanisme quelconque et d'écologie quelconque. Change-toi.
Change-toi, change-toi chez toi. Change-toi chez toi, chacun chez soi. Chacun chez soi, face à soi et à sa mauvaise conscience. Quoi, tu n'y arrives pas, toi ? À te changer, toi, chez toi ? Mais pourtant, ils y arrivent bien, eux, ceux qui disent qu'ils y arrivent. Culpabilité. Gros sur la patate. Change-toi chez moi, à la rigueur. C'est plus sympa. Car chez moi, seul, avec ma lumière et mes déchets, je suis bien emmerdée. Comment comprendre le reste, le tout, les mécanismes qui nous dépassent, qui nous englobent, nous engloutissent ? Seul chez moi, face à moi et à ma mauvaise conscience. Changeons-nous à la rigueur. C'est bien ça, changeons-nous. Réunissons-nous, discutons, critiquons, bataillons, déconstruisons ce qui nous bâtit et qui ne nous convient pas. Changeons-nous, oui. Gros chantier, mais gros enthousiasme. Et puis... Change le monde, change-toi, comme s'il y avait écrit « Change le monde, donc change-toi ». Alors, supprime-le. N'ayons pas peur de l'explicite. Attaquons-nous à tout en même temps. Changeons le monde et changeons-nous. C'était une chronique sur les murs réalisée en janvier dernier. Et depuis, le pochoir a disparu. Mais pourtant, ce son m'est réapparu à la lecture d'un texte, une petite note de bas de page, d'un livre appelé « Ne crois pas avoir des droits » de la librairie des femmes de Milan. Cette petite note parle du slogan « Le privé est politique » apparu dans les luttes féministes des années 70. Il dit... Lorsque l'on parle de nos jours d'une politisation de la vie privée, on met un point d'honneur à ce que chacun soit, de son côté, pour lui-même et pour lui seul, responsable, écologiquement, économiquement, moralement. Et la politisation de la vie privée semble bien renfermer l'individu sur lui-même. Lorsque ces femmes avaient à cœur que le privé soit politisé, elles entendaient bien opérer le geste inverse. Celui d'ouvrir le privé au domaine du partageable, de la réflexion collective.
C'est vrai que c'est beau, les bruits de la maison, du quotidien. Manu, tu les as trouvés où, ceux-là?
Eh bien, ça, c'est les bruits de ma maison.
Ah.
Ouais. Ce sont les bruits de ma maison. Alors, ma maison, elle est un petit peu spéciale parce qu'elle est, elle est perdue dans la montagne, au fond du Jura. C'est ma maison et celle de ma coloc, Valentine. Et notre maison, elle est plutôt vieille. On a la salle de bain au fond de la grange. On chauffe une pièce avec un poêle à bois. Et puis, on a des toilettes sèches au premier étage. Et puis, pourtant, ben, on est bien. On s'y sent vraiment bien, ouais.
C'est pas trop inconfortable ?
Eh ben non, justement, c'est un autre confort, on pourrait dire. Parce que d'abord, à partir du moment où on a une source de chaleur, eh ben, on peut se réchauffer les pieds quand on a un peu froid. Quand on a une salle d'eau, eh ben, on peut aller se laver, peu importe si elle soit accessible ou pas. Et puis on a la nature, on est au milieu des arbres, des oiseaux, la chouette qui vient nous voir tous les soirs. Et le confort, on l'a autrement. Voilà.
D'accord. C'est un réconfort plus qu'un confort, alors peut-être.
C'est ça, Florent, c'est un réconfort. C'est un confort qui est autre que consommable. C'est un confort sobre, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Mais en tout cas, c'est un vrai confort. Et puis, c'est le confort du voisinage aussi. C'est des coups de main avec les voisins qui viennent remettre un bout de bois quand on n'est pas là la journée. C'est toutes ces choses-là qui font que c'est pas le matériel qui compte. Voilà. C'est tout ce qu'il y a autour.
En tout cas, moi, ça me donne envie d'aller visiter ce petit coin de nature dans le Jura.
Mais au moins c'est mal, il trotte. Mais au moins c'est mal, ça grince. Mais au moins c'est mal, il goûte. Mais au moins c'est ma maison. Maison. Il goûte. Mais au moins c'est mal, il trotte. Mais au moins c'est mal, ça grince. Mais au moins c'est mal, je frotte. Mais au moins c'est mal, mais au moins c'est mal. Sur ma tête et je sens chaque goutte qui dégringole du toit, j'écoute siffler les courants d'air et je doute que cela soit bon pour moi, je doute que cela soit très bon, oui je doute. Mais au moins c'est ma maison, ma maison, ma maison, ma maison. Maison, ma maison, ma maison, ma maison. Ça grince. Ça bricole et ça coince, ça frotte. Les fenêtres et les portes, ça frotte. Les bêtes de tout genre, ça crotte. Ça sent pas très bon, ça non, je frotte. Je nettoie mais rien à faire, je frotte. Mais au moins c'est ma maison. Ma maison. Ma maison. Ma maison. Maison. Ma maison. Ma maison. Ma maison. Se tasser, ça c'est dommage. La promise fuite est sans le fromage. Je ne dis rien mais tout de même j'enrage. On se bouscule en ville, dommage. On se monte sur les pieds, c'est dommage. Plus ou moins c'est ma maison. Ma maison. Ma maison. Ma maison. Maison. Ma maison. Ma maison. Ma maison. Maison, ma maison.
La dernière naissance de l'enfant, d'une enfant à Edic, c'était il y a 5 ans. Ça faisait 15 ans que ça n'était pas arrivé. Elle s'appelle Edith. Elle est née à Edic. C'est la fierté de l'île, quoi. C'est la fierté de l'île, c'est la dernière édicaise. Il y a quand même encore à Edic 3 personnes qui vivent au RSA. Ce qui reste un exploit, si tu vois. Ce qui reste un exploit. Il y a une petite maison, il y a une petite maison de 30 mètres carrés là qui est en vente, elle coûte 500 000 euros. C'est marqué sur le. Tu verras à côté du café du repos. C'est une petite maison en pierre là, elle fait 30 mètres carrés, elle coûte 500 000 euros quoi. Il y a 180 maisons à Edic. Et ben c'est bien qu'il y ait encore 3 vieux marins pêcheurs qui vivent au RSA ici, qui puissent vivre ici. Ils chantent, ils font les cons. Ouais. Ça donne une espèce de silhouette au bourg, quoi, tu vois. Edic garde un espèce de truc. C'est un peu le foutoir. C'est un peu le foutoir. Les palettes sont cachées derrière les baraques. Les poubelles à verre, voilà. Les casiers, on te les met sur le port. C'est un espèce d'atelier, quoi. Victor Hugo aussi. Sans dire que c'est irrespectueux, mais tu vois, c'est... Edic a réussi à ne devenir pas seulement qu'une île touristique. C'est pour ça qu'il y a une trinquette, c'est pour ça qu'il y a une boulangerie qui ouvre une heure par jour, c'est pour ça qu'il y a une supérette qui ouvre 2h30 par jour, tu vois.
Une bibliothèque qui ouvre
exactement.
Par semaine,
exactement. Sur 2h. Exactement, et qu'il y a une poste qui ouvre que le matin de 8h à 10h, quoi.
La tradition voulait jusque-là, même à Watt c'est pareil, c'est que le maire soit un Ilien, pur et dur, un vrai Ilien. Moi je ne suis pas Ilien, ma femme est née ici, moi je ne suis pas. Donc ça s'est jamais fait, ni à Watt, c'est toujours les mêmes familles, alors de père en fils ou une autre famille, mais ça reste, et c'est presque c'est pas un vote de raison, c'est un vote du cœur. Ils estiment que leur île, voilà, leur appartient et que la mairie doit être de chez eux. Bon, nous, on n'est pas de chez eux. Bon. Si, on l'est aussi, parce que moi, c'est ce que je dis, quand on vit sur une île, on est Iliens aussi. Donc la compétition s'est faite entre le vote des Iliens et, je dirais quelque part, le vote des non-Iliens.
Excusez-moi de vous déranger.
Oui.
Je vous verrai tout à l'heure.
Cet après-midi.
Ouais, plus tard.
Cet après-midi, ouais.
Ouais,
hein, après déjeuner.
Ouais,
ouais, ok. Oui, je m'appelle Jean-Luc Chifolo, j'ai 67 ans et je suis habitant d'Edic à l'année, retraité. Alors, comme je l'ai dit, en l'espace de 10 ans, on est passé de 2/3 d'Iliens et 1/3 de résidents secondaires. Là, en 10 ans, c'est devenu le contraire, c'est 2/3 de résidents secondaires et 1/3 d'Iliens. Ça a été très 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 chaud parce que effectivement les Iliens se sont comme d'habitude fédérés autour de leur maire, c'est donc l'ancien maire, oui. Mais ça paraissait logique, c'est dans la tradition. Et par contre, tous ceux qui voulaient du changement, donc ceux qui ont un œil un peu extérieur, qui viennent à dire, qui disent c'est bien, mais oh, les déchets ou ceci, ah, oh, puis le bloc sanitaire du camping, c'est encore pas fait, ça fait 10 ans qu'on en entend parler. Bon, tous ces gens-là ont dit il faut que ça change. Donc ils sont plutôt venus vers moi, mais à l'arrivée, c'était à 4 ou 5 voix près. Ah oui, oui. Bah, oui, parce que 80 sur 140, il y a à peu près 60 iliens purs et durs, à peu près, et 60, 80, oui, un petit peu moins, peut-être 50. Et 80, 90 secondaires. Mais ils ne viennent pas tous voter parce qu'ils sont à l'autre bout de la France ou du monde. Donc en réalité, quand il y a les 50 qui font bloc, plus quelques voix quand même par amitié, par copinerie, bon, je crois qu'il est arrivé à 60, 70 voix, et puis moi j'en avais 72. Vous voyez, c'est la limite de ce jeu, mais bon, c'est démocratique. Hein, c'est... Et le deuxième problème qu'il y a sur l'île, c'est le logement. Il n'y a pas de logement. Si quelqu'un veut venir travailler à Edic, on ne peut pas le loger. Il n'y a pas un logement libre.
Les maisons sont occupées.
Toutes les maisons sont occupées. Alors elles sont occupées, mais on dira de la mauvaise façon. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, la plupart des habitations sont devenues des résidences secondaires. Donc elles sont occupées, mais elles sont fermées. Elles sont occupées, mais fermées. Mais les gens ne peuvent pas être dedans. Et il y a quelques Iliens, puisqu'on est 80, il y a une cinquantaine de maisons qui restent ouvertes toute l'année, mais qui sont occupées par des Iliens. Donc quelqu'un qui vient, par exemple, si j'embauche, ça m'est arrivé, d'embaucher un employé communal, le premier souci, ce n'est pas de lui trouver du travail, puisqu'on a le travail, c'est de trouver un logement. Donc bah, il dort des fois de façon précaire. Je sais que les saisonniers dorment au camping. Donc un saisonnier qui finit à 2h du matin, dormir au camping, c'est pas évident. Surtout qu'il y a du bruit souvent la nuit, etc. Donc c'est un gros souci. On n'a pas de logement pour répondre à la demande qui est assez forte. De gens qui sont ici, qui sont mal logés. Et de gens qui voudraient venir ici pour travailler, mais qui demandent en priorité un logement.
Et alors comment vous arrivez à trouver cet équilibre entre ces maisons secondaires, la préservation du territoire et les habitants?
C'est impossible, impossible. Là, on touche au droit privé, donc une maison qui se vend, la mairie a le droit de préemption. Mais le marché de l'immobilier sur la côte en général et sur les îles en particulier est très très cher. Donc la mairie ne préempte pas à ces prix-là, on n'a pas les moyens. Donc en réalité, ben, quelqu'un qui vivait à l'année, je sais pas, le conjoint décède ou le grand-père, il décide de vendre la maison, c'est acheté par un résident secondaire. Et cette maison va être fermée. Enfin, elle va être fermée 9-10 mois de l'année. Quoi. Oui. Donc ça, et on ne peut pas agir. On ne peut agir sur l'habitation qu'en construisant nous-mêmes des logements. Donc c'est le seul moyen qu'on a, c'est ce que je discute avec les personnes avant. L'ensemble de l'île appartient à la commune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terrain privé. Donc là, on est sûr qu'il n'y aura pas de nouvelles constructions pour des résidences secondaires. Il peut y avoir de nouveaux résidents secondaires qui achèteraient un bien d'un résident principal. Voilà. Par contre, nous, on peut créer du logement en réhabilitant certains locaux, voire en construisant sur notre propre terrain. Pour l'instant, ce n'était pas d'actualité parce qu'on avait deux gros investissements. C'est le bloc sanitaire du camping. Donc ça, c'était l'investissement de cette année. Et aussi, on a rénové, on a des gîtes, c'est-à-dire que ce sont des logements qu'on loue aux particuliers toute l'année, et comme on est 80 habitants, les impôts c'est pas grand chose, on peut pas tout faire. Je voudrais bien construire des logements, mais dans l'immédiat les priorités étaient déjà engagées. Donc nous on est en train de faire actuellement, de finaliser ce qui avait pas été fait, ce qui avait été prévu, engagé, mais s'il y a eu un changement de municipalité, c'est pour ça, c'est parce que les gens trouvaient que ça n'allait pas assez vite. Il y avait des projets, mais ça faisait 10 ans qu'on parlait du camping et rien n'avançait. Donc nous, on a mis un coup de booster, mais là, on a pratiquement asséché les finances de la commune pour au jour d'aujourd'hui, pour 2015.
Elle n'est pas là, Marie ?
Non, elle est partie.
À Edic, comme en Ardèche et autres lieux attirants pour les vacanciers, les maisons secondaires remplacent les résidences principales. et c'est avec une grande tristesse que j'y songe. Je ne peux m'empêcher d'imaginer ces endroits s'appauvrir de personnes, de relations, d'événements, et rester ainsi mort pendant 10 mois de l'année, puis de connaître une vie artificielle et artificialisée dans la grasse période des grandes vacances. Une vie de loisirs et du commerce du loisir, loin de la réalité locale, ou du moins friande seulement de sa façade folklorique. Ce colonialisme économique désertifie ces zones et les déguise le temps d'un amer carnaval. Nous assistons à cette disneyfication du monde, où la vie locale, les liens, les organisations collectives sont dénigrées, négligées, puis effacées. Voici maintenant l'extrait d'un texte du collectif jurassien des opposants au projet de Center Park, à Verpoligny, où ils luttent depuis 2 ans. Et ce texte illustre de nouveau ce phénomène. Fin avril, le représentant de Center Park expliquait que le choix de cette parcelle de conifères correspondait aussi au fait qu'il jugeait inenvisageable d'imposer à sa clientèle la présence d'arbres défeuillés durant plusieurs mois d'hiver, rappelant son souci de l'habillage arbustif. Nous voulons redire à Pierre et Vacances, pour qui la nature est un habillage, un décor, un support commercial, que nous ne voulons pas habiter, fréquenter, travailler, façonner, vivre et subir un monde dans lequel l'eau coule à 29 degrés toute l'année et dans lequel les arbres ne perdent plus leurs feuilles pour des raisons de marketing appliquées aux loisirs. Ce monde est stérile, mort. Il n'a pour nous aucun attrait. Nous n'en voulons pas. Même contre la promesse d'y trouver 300 emplois, précaires de surcroît, ni même contre l'assurance d'y manger ou d'y écouler des produits locaux, bio, entre 2 panneaux solaires.
Je vais chercher un parapluie.
Cool.
C'est un jour de décembre 2015, il y a 1 an. Je suis de passage à Paris et Nico me conseille d'aller faire un tour au Grand Voisin. C'est l'arrêt d'Enfer Rochereau sur la ligne 6 à Paris Capitale, la grosse ville. La grosse ville où il y a tant de monde à l'intérieur. Des voisins à côté d'autres voisins. Que des voisins. Qu'est-ce qu'un voisin ?
Wow, c'est beau ça.
Qu'est-ce qu'un voisin ? Je me demande.
Je peux fumer en même temps ? Du coup, tu veux que je t'explique le projet des grands ? Tu me poses des questions ou ça marche comment ? En gros, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul a été fermé en 2011. Et il y a un projet de logement qui va être en chantier 2017-2018. Et entre-temps, donc, les locaux étaient complètement... Enfin, le site était complètement inhabité. Et du coup, il y a des associations et des structures qui ont commencé à s'installer. Notamment des travailleurs maliens qui sont tout au fond du site qui résident ici. Et il y a l'association Aurore qui a investi les lieux, qui aide les personnes en difficulté à s'héberger, quoi, à trouver un logement. En l'occurrence, ici. Et donc, sur le site, il y a 600 résidents. À côté de ça, quand ils ont essayé de faire passer ce projet-là au niveau des habitants et auprès de la mairie, la mairie a un peu gueulé, les habitants aussi, ils n'avaient pas que ça devienne un ghetto. Du coup, l'association Aurore a proposé d'ouvrir une partie de son site à des ateliers d'artistes. Donc là, l'atelier Robin, enfin le bâtiment Robin, il y a principalement des artistes. Voilà. Et l'association Yes We Camp, elle a été appelée pour en gros activer le site. Donc nous, on est là depuis mi-août. On a ouvert la lingerie mi-octobre. Et l'idée du projet s'appelle Les Grands Voisins. Donc l'idée, c'est juste que, en gros, sur le site, il y a toutes les conditions pour une mixité, sauf que en vrai, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, en tout cas, tout seul. Du coup, l'idée, c'est juste de proposer des événements et un foyer et de faire en sorte que les gens se rencontrent.
Alors, je m'appelle François. Je suis le directeur de l'association française des Petits Débrouillards. Et donc, je suis installé ici sur le site de Saint-Vincent-de-Paul depuis le mois de septembre. Alors ici, on va dire la règle du jeu, c'est on vous propose des locaux, des bureaux. Donc nous étions en recherche de bureaux pour notre association et ils sont à un tarif abordable. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut nous aussi les retaper, les remettre un peu en état et on est très content de le faire. Alors les espaces étaient abandonnés depuis un certain nombre d'années, hein, plus de 5-6 ans. Donc ils étaient quand même dans un état vétuste, hein, électricité, sécurité, peinture et j'en passe. Donc on a eu pas mal de boulot, on a bossé tout l'été avec nos bénévoles pour tout remettre en état là où on, dans la partie où on est installé. Tu peux aller voir, hein ?
Je peux aller voir ?
C'est grand. Il y a plein de bâtiments. Des bâtiments immenses. Plein de bâtiments immenses. Ça fait une sacrée surface.
On veut des réunions, des formations, des expos, un peu tout. L'idée ici, c'est de... d'essayer de coopérer entre associations, des objectifs et des visées différentes, notamment par exemple Aurore, qui est un peu l'association qui nous a invités, qui s'occupe d'insertion et d'hébergement d'urgence, donc qui a à gérer des choses dures. Et nous, mouvement éducatif, qui paraissons peut-être un peu loin comme ça quand on le dit vite, mais qui en fait avons aussi des choses à organiser, proposer à ces résidents, notamment les jeunes, mais pas que les jeunes, pour qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils puissent maniper, on peut les former, les accompagner, les tutorer, donc sur des sujets aussi complexes que par exemple le numérique ou l'écologie. Mais pas que, donc on essaie nous de transmettre un peu tout ce qu'on sait faire et de coopérer donc sur le champ du social. Donc c'est un peu ça ce qui se passe aujourd'hui ici, dans ce lieu, c'est la diversité des associations et des fait qu'on trouve plein de nouvelles coopérations qui nous permettent d'entrevoir aussi d'autres actions possibles au cœur de la ville, au cœur de la cité, et qui aussi peuvent... être pour nous un nouveau moyen de développement économique.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on est dans une économie là, plutôt du troc ou de l'échange, comme on dit l'économie circulaire, l'économie fonctionnelle, où chacun apporte ses compétences dans le domaine là où il excelle, où il est le meilleur, et en accrétant ses compétences, on arrive à créer des nouveaux projets, des nouvelles dynamiques qui du coup coûtent moins cher à tout le monde.
Il m'invite à prendre une bière au bar qui est installé là. Je me sens un peu chez moi.
Donc globalement, on propose des événements, que ce soit festif, des soirées tous les soirs de la semaine et le week-end, des ateliers où tout le monde peut participer. On essaie de faire pas mal de médiation, d'aller voir tout le monde, d'expliquer le projet, de faire en sorte qu'ils viennent, etc. L'idée, c'est que vraiment ce soit un espace qui soit vraiment hyper ouvert. Donc on en vient des fois à refuser des programmations qui sont plutôt destinées à un certain type de public, notamment très parisien. où on se dit bon, voilà, c'est pas l'idée.
Vous faites les soupes à emporter?
Non.
Non, c'est une idée.
Ouais.
On est déjà très nombreux, on n'a pas réussi à se rencontrer tous. Mais on voit la richesse, en tout cas, on se voit régulièrement, enfin tous les mois. Et il y a effectivement certainement beaucoup d'autres associations qui auraient leur place ici. Il y a encore des possibilités, hein, donc il ne faut pas hésiter. Mais il y a vraiment déjà beaucoup de travail à essayer de connaître, comprendre ce que font les autres.
Et du coup, la spécificité du lieu, c'est aussi que ce soit un lieu éphémère.
Comme ça, a priori, j'aurais envie de répondre en boutade. Tout est éphémère, donc aujourd'hui, on voit bien que les choses vont bouger rapidement, les pouvoirs changent vite demain, les temps sont à la rapidité et au changement, donc qu'on soit là pour 3 ans ou pour 10 ans, change pas grand-chose. Ce qui nous importe, c'est ce qu'on y fait, ce qu'on va y faire. Après, Paris est quand même une ville qui a du mal à associer jeunesse, lieu de vie, accessibilité, parce que le mètre carré vaut très cher et que la ville est très prisée, très, très demandée, et le mètre carré est trop cher. Mais, donc ici, on essaierait de travailler avec les élus, travailler avec les voisins, travailler avec les associations pour que se dessine dans ce nouveau quartier une vision un peu différente de la ville, où le monde associatif, le monde de l'artisanat, le monde soit plus intriqué avec les résidences et les habitants.
Promiscuité, familiarité, super. Mélange,
quotidien,
facilité.
Voilà, c'est ça un voisin. En quittant ce lieu, où j'ai fini par passer la journée, où j'ai bu des bières, dansé sur du tango, parlé italien, je me dis chouette, à Paris,
la grosse ville,
j'ai dorénavant un voisinage.
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves, avec son Beretta, traque les mots qui chouravent, l'opinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine, dans sa petite vie de peine cul, sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré, que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter, c'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du huitième, le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a le jeune cat dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus loggia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. De toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la sûre pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribuable centriste, il aime pas les enfants, c'est vous dire s'il est triste. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et l'amour du huitième, le HLM. Au deuxième, dans mon HLM, y'a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Y'a tout le temps de la musique, des anciens de 68. Y'en a un qui est chômeur, y'en a un qui est instit, y'en a une, c'est ma sœur. Ils vivent comme ça, relax. Y'a des matelas par terre, les voisins sont furax. Ils font un boucan d'enfer, ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers déboulent, ils écrivent à Libé. C'est vous dire s'ils sont cool. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du huitième, le HLM. Au troisième, dans mon HLM, y'a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub, l'hiver à Avoriaz, le mois de juillet au club. Comme toutes les décolorées, elle a sa mini couvert, elle allume tout le quartier quand elle sort son coquère. aux manifs de gonzesses. Elle est au premier rang, mais elle veut pas d'enfant, parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses, et puis ça fout des rides. Elle l'a lu dans l'Express, c'est vous dire si elle lit. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la monde du huitième, le HLM. Au quatrième, dans mon HLM, y'a celui que les voisins appellent le communiste. Même ça lui plaît pas bien, il dit qu'il est trotskiste. J'ai jamais bien pigé la différence profonde. Il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes.
À l'époque, c'était le début des Grands Voisins. Aujourd'hui, ils sont encore très actifs, donc n'hésitez pas à aller les rencontrer si vous passez à Paris. Ils servent aussi de modèle pour d'autres initiatives, à Besançon aussi, avec l'envie d'occuper les locaux de l'hôpital Saint-Jacques, porté par le collectif Hop Hop Hop. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les contacter à hophophop@ntymail.com.
Voilà, Actulutte, c'est comme Renault, c'est fini. Donc il y avait plein de choses à dire hein, sur l'habitat, d'autres choses. On aurait pu parler des inégalités liées au logement, de la spéculation qui pousse les gens à la rue.
Ouais, on aurait pu parler aussi de l'habitat léger, des yourtes, des caravanes, des cabanes dans les arbres et des difficultés que leurs habitants rencontrent. On leur témoigne notre soutien parce que l'habitat léger, c'est aussi une façon de rêver sa maison et en maîtrisant les moyens de sa réalisation.
Oui, c'est vrai, l'habitat, c'est aussi le lieu de la réalisation, de l'épanouissement. En fait, on devrait tous être en mesure de pouvoir se ressourcer. D'ailleurs, je vous invite pour cela au Salon de l'Habitat Micropolis. Non, c'est une blague. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau thème. En attendant, cultivez votre esprit critique.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille: ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi où je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois.